dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Eric Manilakiza avec vous, Georges Léonard Sagno assure la réalisation. Bienvenue dans l'Amérique, vous consacrez à Nelson Mandela International Day. Ce soir, nous mettons à lumière le thème de cette année lancé par l'ONU, combattons la pauvreté et l'inégalité, c'est entre nos mains. Nelson Mandela International Day, célébré chaque 18 juillet, marque l'anniversaire de la naissance du premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud. Mandela a consacré sa vie à la liberté et à la justice pour son peuple, un combat qui résonne encore aujourd'hui à travers le monde et ici aux États-Unis. Cette journée a été célébrée ici à Washington, à la Banque mondiale. Pour en parler, je suis en ligne avec Ramayad, directrice du programme Afrique de Atlantic Council. Madame Ramayad, bonsoir.
Bonsoir.
Karine Kaneza-Nantoulia, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch, est avec nous en ligne. Karine, bonsoir.
Bonsoir Eric, ravi d'être avec vous.
Sherif Keïta, professeur d'études francophones interdisciplinaires à Minnesota. Il se trouve au Mali actuellement. Sherif, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Eric, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vos auditeurs.
Merci, merci à vous tous d'être avec nous. Karine, je vais commencer avec vous. Voudriez-vous nous parler de l'importance de la journée internationale Nelson Mandela?
Merci. La journée internationale de Mandela, cela va sans dire, c'est quand même, c'est nous rappeler de ce que Mandela représente, ce Mandela, un homme d'une stature mondiale sur plusieurs fronts. Et cela aussi nous rappelle son travail, sa vie, les discours qu'il a menés. On n'oubliera jamais ce qu'il dit durant son procès. Il était prêt à mourir pour un idéal de liberté, de justice et de démocratie. Et maintenant, évidemment, cela résonne encore plus étant donné les moments turbulents, si j'ose dire, que le monde, et en particulier l'Afrique, est en train de passer.
Merci Karine. Ramayad, voudriez-vous partager votre point de vue sur le thème de cette année, combattons la pauvreté et l'inégalité, c'est entre nos mains?
Oui, c'est vrai que ce thème est assez commun quand il s'agit des Nations Unies et des organisations internationales bilatérales. Le thème de la lutte contre la pauvreté et les inégalités a toujours été récurrent. Maintenant, il est clair que au-delà des mots, au-delà des célébrations, des intentions, le continent africain, pour ce qui me concerne, est pris dans un sentiment d'urgence. On ne peut plus se payer le luxe des mots et des thèmes à célébrer. C'est le plus jeune continent du monde qui a aujourd'hui engagé le doublement de sa population et il y a un besoin de création d'emplois, près de 20 millions d'emplois par an, là où on n'en crée que 3 millions par an. L'emploi industriel, manufacturier, qui devrait être le moteur de cela, et reste encore en deçà des besoins. Donc la meilleure manière, au fond, de combattre la pauvreté et l'inégalité, et de ne plus, si vous me permettez, se payer de mots, mais de passer à la phase supérieure. Et là-dessus, ça veut dire donc des investissements de cette même communauté internationale à travers le secteur privé et les institutions multilatérales sur le continent, dans les marchés africains. Et ces investissements sont aujourd'hui, comme vous le savez, complètement découragés par un système financier international qui est parfaitement défavorable aux pays africains, aux pays pauvres. Donc, puisque le coût de l'emprunt est beaucoup plus élevé qu'ailleurs et que beaucoup d'investisseurs pensent que c'est un continent à risque et qu'on ne veut pas y investir. Donc, ça ne s'explique pas du tout par l'incurie budgétaire des États africains ou par le fait qu'ils n'ont pas de performance économique. Je rappelle que selon la BAD cette année, 6 pays africains seront parmi les 10 économies à plus forte croissance dans le monde. Alors pourquoi a-t-on des problèmes de pauvreté ? Parce que précisément, on ne s'attaque pas aux sources du problème, qui est un système financier international qui leur permet pas qui ne favorise pas l'investissement en Afrique.
Chérif, quelle signification a cette journée pour vous personnellement et comment pensez-vous que chacun de nous peut contribuer à cette cause ?
Alors moi, je dirais que Nelson Mandela lui-même, un homme très humble, aurait aimé que cette journée soit concentrée, pas uniquement sur lui, mais sur ceux qui l'ont précédé et ses compagnons de lutte, parce qu'il estime lui-même qu'il n'est pas un héros de génération spontanée et qu'il s'est arrêté, il est monté sur les épaules de différentes générations qui ont précédé sa génération à lui. Donc il aimerait que ces gens soient connus, ces héros qui ne sont pas connus aujourd'hui. Par exemple, je pense à la génération de John Dubé, celui qui a fondé l'ANC avant sa naissance à lui, Mandela. Alors, qui était un homme du 19e siècle, et lui et sa femme, Nkutella, qui ont été franchement les Mandela et les Winnie de leur époque, et qui ont été les premiers vraiment à parcourir le monde, notamment les États-Unis et l'Europe, pour parler de la condition de leurs concitoyens sous la colonisation britannique. Alors cette génération est dans l'ombre, c'est une génération comme celle de Gandhi, vraiment qui a œuvré dans une zone grise, avant que les choses ne soient littéralement noires et blanches, où les positions étaient bien claires. C'est une génération qui a dû louvoyer, qui a dû négocier pour trouver sa voie et pour parler au reste du monde, donc de cette situation que la colonisation avait créée pour les gens de couleur. Mmh. Donc, je crois que Mandela souhaiterait qu'on enseigne, qu'on enseigne l'histoire de ces gens-là et qu'on ne se concentre pas uniquement sur lui.
Oui. Chérif, en hommage aux 67 années de dévouement de Nelson Mandela envers l'humanité, oui. Il faut consacrer au moins 67 minutes de leur temps à des gens, et surtout les jeunes, à travailler bénévolement pour illustrer ainsi l'engagement pour un avenir meilleur. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, personnellement?
Bon, personnellement, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai surtout parlé autour de moi de la vie de Mandela et de l'Afrique du Sud, et de la situation que j'ai vécue là-bas, parce que ça fait 25 ans que j'y travaille, que je fais des films sur donc l'histoire du pays. Je profite toujours pratiquement de chaque jour pour parler de Nelson Mandela et de la lutte du peuple noir, du peuple de couleur. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. C'était très modeste, mais en tant qu'enseignant, je trouve que c'est la meilleure chose que je puisse faire.
Merci, Chérif. Ramayad, en quoi l'héritage de Nelson Mandela continue-t-il d'influencer votre engagement et vos actions aujourd'hui?
Écoutez, pour moi, Mandela, c'est trois mots. D'abord, la résistance, 27 ans de prison et en sortir président de son pays. Le patriotisme, c'est un homme connu pour ses valeurs de moralité et qui a su placer son pays au-dessus de tout et le servir. Et puis enfin, la réconciliation, un peuple déchiré, un pays déchiré qu'il a réussi à reconstruire en montant des gouvernements de l'Union nationale avec les Blancs et les Noirs, au point même de leur fâcher à l'ANC. C'est quelle extraordinaire qualité il faut avoir pour arriver à faire cela après 27 ans de prison et ne pas en vouloir à ses oppresseurs. Effectivement, le mot humble aussi me parle également. J'ai une expérience personnelle avec Nelson Mandela qui m'a fait que j'ai eu l'honneur de rencontrer deux fois. Et en moins d'un an, à Paris et à Johannesburg, et il était au soir de sa vie. La première fois, c'était en 2007. J'étais secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme depuis à peine deux mois en France, lorsque il effectuait une visite avec sa casquette, si je puis dire, pour sa fondation de lutte contre le SIDA. Et il était reçu donc à l'Élysée et j'étais avec le Premier ministre, le Président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Nous étions quatre à dîner avec lui ce soir-là. Et, et il avait 89 ans et il s'est adressé à moi dans sa langue pensant que j'étais sud-africaine. Et quand le Premier ministre lui souligne que j'étais ministre d'un gouvernement français, il a eu un mouvement soudainement alerte, il s'est redressé de sa canne, tout tenant sur son épouse grâce à Machel. Et il dit, mais la France a bien changé, se demandant au fond comment quelqu'un d'origine sénégalaise peut être président d'un gouvernement français, sachant qu'il y a quelques années à peine, cet homme qu'on célèbre, prix Nobel de la paix, président, était sur la liste des terroristes et ne pouvait pas être reçu à Paris. Et quelques jours après, il m'a invité à son anniversaire, c'est 90 ans à Johannesburg, et j'ai pris mon avion et je suis allée directement à Johannesburg. Ça se passait au lycée Jules Verne, au lycée français. Et je pensais qu'il y avait plein de monde, plein d'officiels. Et en fait, c'était juste lui, Kassa Machel, l'ambassadeur de France, Denis Tueton, son épouse et moi. Simplement, et des enfants autour qui dansaient pour le célébrer, qui chantaient, qui faisaient du théâtre. Voilà l'humilité de Mandela. Voilà le géant du siècle que j'ai eu la chance de voir la première fois à cette époque, pour ses 90 ans.
Karine, sur la même question, et quels aspects du leadership de Mandela vous inspirent le plus dans votre propre parcours de leader?
Merci. Alors, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Mandela comme Rama, mais j'ai eu l'honneur de rencontrer Graça Machel et Winnie Mandela, une fois chacune. Et alors, pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai eu la chance de quand même travailler pour le Desmond Tutu Peace Center j'étais en Afrique du Sud pendant 7 ans, et c'est là l'éveil il y a une vingtaine d'années, et c'est là où j'ai eu l'éveil professionnel, le regard un tout petit peu plus clair sur ces questions de justice. Donc ma carrière s'est poursuivie dans tout ce qui est justice transitionnelle, hein. Et donc en parlant de Mandela, et après justement ces discussions que j'ai eues, ces conversations que j'ai pu avoir avec sa première et sa deuxième épouse, c'est la consistance aussi dans les valeurs et dans les positions. C'est la consistance, comme les autres l'ont dit, l'humilité, la vigilance aussi, la vigilance, la lucidité. Une chose qui est assez remarquable par rapport à Mandela, c'est qu'il disait non à la domination blanche, mais il disait aussi non à la domination noire. Hein. C'est quand même un leader qui a fait montre, qui a fait preuve d'un énorme leadership moral, chose que parfois l'on désire en ce moment. Donc voilà.
Shérif, John Dobé, vous l'avez dit, a joué un rôle crucial dans la fondation de l'ANC. Comment Absolument. John Dobé et Nelson Mandela sont-ils connectés dans l'histoire de la lutte pour la liberté en Afrique du Sud?
Alors, la première chose que Nelson Mandela a faite quand il devait voter pour la première fois, c'était de se déplacer de Johannesburg à Inanda, dans la banlieue de Durban, une cité très pauvre, donc qui est à 20 kilomètres de Durban, pour aller voter dans l'école de John Dobé, qui s'appelle The Oslange Institute. Aujourd'hui, c'est le NDC. Mais à l'origine, quand cette école a été fondée en 1900 par John Dobé et son épouse, de côté là, Mdima Dobé, l'école s'appelait The Oslange Institute. Et elle avait été fondée sur le modèle du Tuskegee Institute, qui a été l'œuvre de l'Africain-Américain, de l'éducateur africain-américain Booker T. Washington. Alors donc, quand John Dobé s'est rendu à Inanda, au KwaZulu-Natal, il y avait une raison politique. C'était d'abord pour affirmer la présence de l'ANC sur tout le territoire de l'Afrique du Sud. Parce qu'à cette époque-là, nous savons que le KwaZulu-Natal était dominé par Inkatha Freedom Party. Alors, c'était une façon de braver le Inkatha en allant voter à l'école qui a été fondée par le cofondateur de l'ANC sur le territoire du KwaZulu-Natal. Alors, et c'était aussi une façon d'indiquer au monde ce jour-là que la lutte n'a pas commencé par lui, avec lui. Qu'il y a eu d'autres personnes, d'autres héros avant lui, et que, d'ailleurs il a déclaré, que quand la presse lui a posé la question, pourquoi est-il venu à Inanda, il a dit, c'est parce que tout a commencé ici. Donc par l'éducation, par l'école. cette éducation qui était niée aux Noirs. Pendant très très longtemps, le gouvernement colonial britannique ne finançait pas les études des Noirs au-delà de la septième année. Et John Dubé est l'exemple de celui qui a pu relever le défi, partir aux États-Unis, bien sûr grâce à l'aide des missionnaires protestants blancs, les Wilcox, Reverend Wilcox et sa femme, qui d'ailleurs était originaire de la ville où j'habite aux États-Unis. Donc, il a tenu à montrer en fait que l'éducation était la pierre angulaire de la lutte contre l'injustice. Voilà donc ce que Mandela a fait.
Merci.
Je trouve que ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens.
Merci beaucoup, shérif. Ramayad, dans vos lettres d'Amérique, vous parlez beaucoup de...
Je pense que les difficultés seront les mêmes que celles auxquelles l'Afrique du Sud aujourd'hui est confrontée. En décembre dernier, on célébrait les 10 ans de la disparition de Nelson Mandela. C'était l'occasion de faire un bilan de ce pays sur le plan démocratique. Je rappelle que le pays s'est doté d'une des constitutions parmi les plus démocratiques du monde. Alors on dit souvent des choses négatives sur l'Afrique. Je pense que c'est important de le souligner. Mais en même temps, après Thabo Mbeki, après Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, il y a cette impression que le sacrifice de Mandela n'est pas encore tout à fait honoré, aussi bien dans ce pays-là que dans le reste de l'Afrique qui, on l'a vu en effet, a pu connaître des soubresauts, notamment dans le Sahel. Mais c'est pas ça ce n'est pas que cela l'Afrique, c'est aussi effectivement des belles aventures démocratiques du Botswana au Sénégal, la Tanzanie, le Ghana qui font des efforts également. Donc il y a plein de pays où ça se passe beaucoup mieux qu'on ne le dit. Mais il est vrai que des défis demeurent. Et je pense que parmi ces défis, il y a d'abord l'importance d'enseigner aux jeunes Africains l'histoire démocratique de l'Afrique. Parce que la démocratie est souvent vue comme une importation venue de l'étranger. Et parmi justement tous ces sous-pouvoirs militaires, il y a cette idée que la démocratie c'est acheté à la poubelle parce que ça vient de l'extérieur. C'est pas vrai. La démocratie, c'est aussi une tradition africaine. Et c'est garder les gens dans l'ignorance comme ça, y compris quand même quand ils sont eux-mêmes africains, c'est quelque chose qui est terrible. D'abord, c'est assez insultant de penser que la démocratie n'a pas de source, n'a pas de source en Afrique, qu'on est fait pour vivre dans les fers. Ce n'est pas vrai. Et il faut rappeler ces histoires-là. Je veux dire, la première déclaration des droits de l'homme dans le monde, dans l'humanité, c'était la Charte du Mandat au XIIIe siècle, sous l'Empire du Mali. Qui le sait? C'est pas le Bill of Rights de UK. Donc ça, il faut l'enseigner et parler des pratiques démocratiques chez les Yoruba, chez les Ashanti, c'est quelque chose qu'il faut enseigner pour redonner une dignité démocratique à l'Afrique. Deuxièmement, il y a dans l'arène politique, je pense qu'il est important de renforcer les institutions. On a vu au Sénégal comment ça s'est passé, comment au milieu de la crise politique, il a suffi que le Conseil constitutionnel dise au président sortant non, nous ne sommes pas d'accord avec le report des institutions. Nous voulons que cette élection se tienne à telle date. Et le président sénégalais Macky Sall a accepté. Dans combien de pays au monde voit-on des présidents accepter une décision comme celle-là de leur conseil constitutionnel? Donc les institutions, les administrations centrales, mais aussi les contre-pouvoirs comme la justice, les médias, c'est important. Et enfin, je pense qu'il sera aussi nécessaire d'introduire dans ces institutions une partie de ces traditions africaines, justement. Une meilleure représentation des anciens, parce que les anciens, en Afrique, ça compte. Le renforcement de la gouvernance locale, parce que les territoires, souvent, sont très, 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 très grands. Regardez le Niger, regardez le Mali, regardez l'Algérie. L'inclusion des associations de jeunes, qui sont très dynamiques. L'UCHA, le Ballet Citoyen, Yanama. Il y a un dynamisme au niveau de la jeunesse politique qui est absolument extraordinaire et qui doit être reflété aussi dans les institutions. Et enfin, je crois aussi crucial que les oppositions soient à la hauteur de leur tâche. Parce qu'on a souvent vu des oppositions fatiguées par des décennies d'opposition, justement, d'exil, voire de prison, parce que l'opposition en Afrique, ça peut être violent. Lorsqu'ils se fatiguaient de cela, ils peuvent se laisser embarquer, disons, dans différents régimes sans être en capacité finalement d'incarner une alternative. Et on l'a vu par exemple sur ces affaires sur cette histoire du Sahel avec tous ces coups d'État. On a beaucoup parlé des coups d'État, on a beaucoup parlé des régimes qui ont été renversés, mais on n'a pas parlé des oppositions. Ils ont carrément été complètement ignorés dans la conversation. Et pourtant, de la Guinée au Mali, en passant par le Burkina, il y a des oppositions qui, depuis des décennies, se battent, sont en prison, sont en exil et qui sont complètement ignorées aujourd'hui. Donc il faut que si demain, les hommes en tenue militaire ne sont plus à la mode, il faudra bien une relève. Et pour cela, les oppositions démocratiques doivent aussi se tenir prêtes.
Karine, en 1962, Nelson Mandela a prononcé un discours à Addis Abeba qui a marqué les esprits. Voudriez-vous nous parler de ce discours et de son impact sur le mouvement panafricaniste?
Oui, mais en fait, j'allais revenir un petit peu sur une question sur la contribution de Mandela en Afrique. C'est aussi c'est son implication justement dans la résolution des crises. Hein. Rappelons-nous de l'accord d'Arusha. Au Burundi pour résoudre justement la guerre civile qui sévissait à cette époque-là, dans les années 90-2000. Rappelons-nous du dialogue intercongolais où l'Afrique du Sud, justement, à partir de 94, s'ouvre vers le reste de l'Afrique. Et je pense que c'est une leçon très importante qu'il faut un héritage qu'il faut garder. Alors, en parlant de son discours à Addis Abeba en 1962, il faut d'abord se rappeler que dans les années 60, c'était aussi un tournant important dans l'histoire de l'Afrique du Sud et de Mandela en tant qu'homme politique. Rappelons-nous du massacre de Sharpeville, après lequel Mandela a été condamné à 5 ans pour sabotage contre le régime apartheid. Et je parle de ça parce que ça fait écho un petit peu de ce qu'on voit, hein, ces journalistes, ces activistes qui sont emprisonnés pour avoir soi-disant saboté leur gouvernement au nom de la sécurité nationale, etc. Le discours de Mandela en 1962 à Addis, c'est quand même là où il annonce un nouveau chapitre, un nouveau tournant dans la lutte contre l'apartheid, où il fait un appel vibrant à la communauté des leaders africains pour que justement ils puissent montrer leur solidarité au moment de la naissance et de la formation de Mkhonto Wesizwe, qui était la branche armée de l'ANC. Mmh. Maintenant, c'est en mettant ça de côté, en fine, la teneur essentielle de son discours, c'est la description du malheur du Sud-Africain de l'époque. Et oui. Comment les exactions qui étaient commises au jour le jour par le régime de l'apartheid. C'est un discours qui résonne très fortement aujourd'hui, parce que maintenant, ce que l'on voit, et je pense que vraiment on a un petit peu parlé de la jeunesse, de la nécessité d'inclure justement les jeunes, parce qu'ils sont à the forefront, comme on dit, ils sont devant de la scène justement pour décrier certaines de ces exactions qui sont commises maintenant par d'autres, évidemment, par une autre forme de gouvernance et d'autres leaders.
Chérif, comment ce discours résonne encore aujourd'hui dans le contexte des luttes pour l'égalité et la justice en Afrique? Il nous reste moins d'une minute.
Je crois que tout a été dit par mes copanélistes. La question de la jeunesse, certainement, parce que lui-même, il a été jeune à un moment donné, en 1946, quand ils ont fondé le ANC Youth League. Alors c'était pour contester l'ancienne façon de faire des choses, par les négociations, qui n'aboutissaient à rien, qui montraient en fait que le système se jouait des leaders noirs. Alors c'est à partir de ce moment-là que le ANC Youth League, lui-même et d'autres de ses compagnons, a pris la relève.
Merci, Chérif. En 25 minutes, c'est impossible de parler de Mandela. Merci en tout cas, vous avez essayé. Ramaya, directrice du programme Afrique de Atlantic Council. Karine Kaneza-Nantulia, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch. Chérif Keïta, professeur d'études francophones et interdisciplinaires à Minnesota. Merci beaucoup, Eric Manilakis a été avec vous, Georges et Léonard Sagnot a assuré la réalisation de cette émission. À la prochaine.